à continuer dans cette présence du Seigneur par la lecture de sa parole. Je vais dire quelque chose. Dans le temps de louange, il y a un chant qui m'a beaucoup parlé. Et juste une petite parenthèse. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Ça, c'est la bonne devise pour l'heure à l'heure. Donc, c'est quelque chose voilà, quand j'ai la râlerie essaie de venir, je me dis, oula, je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je crois que c'est. Voilà, je ferme la parenthèse. Pour ce matin, je vous propose une petite série de trois messages sur une question qui est à la fois source de crainte et d'espoir pour beaucoup. Je veux parler du jugement de Dieu. Certains voient le jugement de Dieu comme une punition pour nos péchés, tandis que d'autres le voient comme un appel à revenir au Seigneur et à recevoir son pardon. Je crois que les questions du jugement de Dieu sont difficiles à comprendre, car elles touchent à la fois la nature de Dieu lui-même et notre relation avec Dieu. Cela dit, je crois que c'est quand même une question très importante à considérer, car il nous aide à réfléchir sur notre place dans ce monde, notre avenir et notre relation avec Dieu. Pour survoler ces questions sur le jugement de Dieu, j'ai choisi le livre de Sophonie pour ces trois messages. Je vous propose d'ouvrir votre Bible, et si vous l'avez, et lire avec moi Sophonie 1, du verset 1 à 6. Le livre de Sophonie se trouve dans l'Ancien Testament. Il est assez facile à trouver également avec vos smartphones. Mais je veux encore prier. Oui, Dieu notre Père, nous te confessons que nous sommes limités pour sonder toutes les richesses de ta parole. C'est toi qui pourvois nos besoins et nous te prions de venir nous ouvrir nos pensées, nos cœurs pour comprendre ta parole. Aide-nous à la comprendre et aide-nous à nous mettre en mouvement pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, ceux qui ont leur Bible, je vous invite à le lire avec moi dans la version que vous avez. Le livre de Sophonie est souvent classé dans une catégorie de livres qu'on appelle des petits prophètes, en comparaison aux grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Sophonie a exercé dans les années 700 ou 800 avant Jésus-Christ. Il a passé son temps à avertir le peuple de Dieu et les rois du jugement imminent de Dieu en appelant à se repentir, c'est-à-dire à revenir à Dieu. Une partie de ces prophéties s'est déjà accomplie et il y a d'autres qui vont venir. Et je crois que cela nous concerne aussi, et c'est de cela que j'aimerais qu'on parle dans ces trois messages. Je vous invite à lire le premier verset de Sophonie, qui dit ceci: Parole de l'Éternel adressée à Sophonie, fils de Cushi et descendant de Guedalia, d'Amaria et d'Ézéchias, durant le règne de Josias, fils d'Amon sur Juda. Parmi les rois de l'époque, il y avait le roi Ézéchias, qui était un grand roi pieux. Son fils Manassé a régné pendant 55 ans à Jérusalem, et la Bible nous dit qu'il fit ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et puis, ce fut Manassé, pardon, Manassé, lui, a régné pendant 55 ans, mais il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, excusez-moi. Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Dieu l'a jugé. Il l'a fait exiler. Et vous savez ce qui s'est passé? Manassé s'est repenti. Et ce qui s'est passé, Dieu l'a restauré. Ensuite est venu Amon. Lui, il a été si horrible qu'il n'a duré que 2 ans. Puis ce fut le Josias qui est venu, il a duré pendant 31 ans à Jérusalem. Et Josias fit ce qui est bon aux yeux de l'Éternel, nous dit la parole. On voit donc que le ministère de Sophonie, sa prophétie, a eu lieu pendant la période de Josias, un roi fidèle à Dieu. On peut se poser la question, mais pourquoi Dieu avait averti son peuple du jugement imminent sous le règne d'un roi qui était fidèle à lui? Eh bien, je vous soumets trois hypothèses, trois raisons probables que j'ai trouvées. La première, c'est que le peuple de Dieu a certainement été trop loin dans ses adorations de faux dieux. Et Dieu veut leur donner l'occasion de revenir à lui. La deuxième raison, je l'ai trouvée dans le livre de Chroniques, chapitre 34, verset 33, où nous lisons que Josias obligeait le peuple à se tourner vers Dieu. Suivre le Seigneur n'est pas une question d'obligation. Ce n'est pas une question de... C'est une question de choix. C'est une question de nécessité. C'est une question de soumission et une question d'obéissance. Dieu, par Sophonie, fait encore appel par ses prophéties à la conscience de son peuple en lui pointant ses torts. Et la troisième raison probable que j'ai trouvée, c'est que c'est le plan de Dieu. Et de faire cette prophétie, et pour que cette prophétie serve à son Église encore aujourd'hui. Dans tous les cas, vous noterez comme moi, dans ce premier verset, que ce que dit la parole. Il est écrit « Parole de l'Éternel adressée à Sophonie ». Ce qui veut dire que les paroles de Sophonie ne sont pas celles d'un prophète grincheux, un prophète râleur, mais c'est la parole même de Dieu. C'était donc la parole digne de confiance, une parole qui venait de Yahvé, de Dieu lui-même. Croyez-vous à ce que Dieu dit dans sa parole? Dans le verset 2, nous lisons ceci. « Je ferai tout disparaître de la surface de la terre. » À propos du jugement de Dieu, beaucoup de gens doutent du jugement de Dieu. Vous avez peut-être entendu des personnes se moquer en disant « ça fait quand même trop longtemps » qu'on nous dit que Dieu jugera le monde, mais rien ne se passe. Ou « ça fait peut-être trop longtemps que les douleurs, les atrocités, les méchancetés de ce monde ne font que croître et toujours à rien. » On dirait que Dieu s'en fout. Vous avez certainement dû entendre parler de ces paroles. Mais ne soyez pas surpris. La parole de Dieu nous en parle elle-même. On lit dans 2 Pierre 3, versets 3 à 4, nous lisons ceci. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs et avec leur râlerie, marchant selon leurs propres convoitises et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Par Sophonie, Dieu nous dit encore aujourd'hui qu'il va juger le monde. Alors que pouvons-nous comprendre dans la lenteur apparente que nous voyons dans l'attente de ce jugement ? Nous pouvons le voir comme un caractère fondamental de Dieu. Dieu, notre Dieu, est étonnamment, étonnamment patient. Chaque jour où Dieu retient son jugement final, nous pouvons le voir comme la preuve encore de sa patience. Dieu est étonnamment patient. Mais son jugement est inévitable, nous dit la parole. C'est ce que nous voyons dans la suite du verset 2 et 3 de Sophonie. Le jugement de l'Éternel est inévitable. Le texte nous dit « Je ferai tout disparaître de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je ferai disparaître les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Et tout ce qui fait trébucher les méchants, j'exterminerai les hommes de la surface de la terre, déclare l'Éternel. » Dieu promet de faire le ménage dans ce monde. Le terme utilisé ici rappelle le propos de Dieu dans l'histoire de Noé, au moment du déluge. Aujourd'hui, nous savons que par sa parole, que Dieu ne nettoiera pas le monde avec l'eau comme du temps de Noé. En comparant ce texte avec celui de Genèse, de la création, le texte de Sophonie, ces versets-là, on peut dire que Dieu nous confirme bel et bien qu'il va déconstruire le monde, ou plus exactement, qu'il va faire la décréation de son œuvre. En effet, si vous vous souvenez, dans le récit de la création dans Genèse, Dieu a créé les poissons, les oiseaux, les bêtes, et en dernier, l'homme comme le summum de sa création. Et dans ce verset que nous dit Dieu par Sophonie, « Je ferai disparaître les hommes, les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. » C'est exactement dans l'ordre inverse de la création. Comme pour nous souligner une décréation, une déconstruction du monde que par Dieu lui-même. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le jugement de l'Éternel est inévitable, même pour son peuple élu. Pour comprendre le pourquoi, faisons un petit détour dans Deutéronome, le livre de la loi. Justement, ce livre que Josias a fait redécouvrir au peuple de Dieu qui l'avait délaissé. Le livre de Deutéronome décrit l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Dieu a promis de ne jamais abandonner cette alliance, même si son peuple l'abandonnait. Et dans cette alliance, Dieu a promis de chasser les nations maléfiques de Canaan pour donner la terre à son peuple. On peut voir là, en cela, que Dieu a horreur du mal. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Dieu est saint. Il demeure dans un lieu saint. Derrière ces promesses, Dieu avertit son peuple en lui disant, en gros, attention les gars, si jamais vous m'abandonnez pour de faux dieux, je vous punirai, car je suis un Dieu juste qui punit le péché. La lecture de Deutéronome 4 nous aide à comprendre pourquoi Dieu juge son peuple. Mais le temps nous manque pour lire ce chapitre 4. Mais en le lisant, vous verrez que l'Éternel est un Dieu juste et saint. Il ne peut tolérer le péché et la conséquence de la désobéissance à la loi de l'Éternel par son peuple ne pouvait qu'être que la punition de Dieu. En lisant Deutéronome chapitre 4, vous verrez que la loi de l'Éternel est, je dirais, un code de vie destiné à conduire les gens à la justice et à la sainteté. Elle est faite pour protéger les individus et la société. Et par conséquent, en désobéissant à la loi de Dieu, son peuple se mettait lui-même en danger. Et enfin, vous verrez en lisant Deutéronome 4 que le peuple savait très bien qu'il avait été choisi, sauvé d'Égypte, aimé de Dieu et conduit par Dieu lui-même. Mais il a désobéi, il a abandonné Dieu. Et la conséquence logique à tout cela, c'est la colère de Dieu et le jugement de Dieu, car Dieu est juste, nous l'avons chanté, il est saint, et par conséquent, il punit le péché. En pensant à la colère de Dieu, nous prétendons parfois que Dieu est méchant, alors que le méchant de l'histoire, l'ingrat de l'histoire, c'est nous. Le verset 4 à 6 nous énumère quelques raisons du jugement de l'Éternel. Et quand nous le regardons de près, ces raisons, je pense que nous pouvons dire que le jugement de Dieu est non seulement inévitable, il est nécessaire, mais c'est un jugement compréhensible. Le jugement de l'Éternel est compréhensible. Nous pouvons le comprendre quand nous réalisons réellement les torts causés à Dieu avec nos péchés. Les versets 4 à 6 nous énumèrent quelques raisons du jugement de l'Éternel. Ces versets, si vous le lisez avec moi, disent ceci. « Je déploierai ma puissance contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. » je supprimerai de cet endroit ce qui reste de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant les corps célestes, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel tout en jurant par leur roi. Je supprimerai ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et ceux qui ne le consultent pas. Dans ces versets, Sophonie nous fait voir trois formes d'idolâtrie qui étaient courantes en Juda. Le culte de Baal, le dieu de la fertilité et de la tempête, le culte des étoiles et puis le culte de Molech, le dieu à qui l'on offrait des sacrifices de jeunes enfants. Dans ces trois formes d'idolâtrie, il y avait le remplacement de Dieu de la Bible par des faux dieux. Il y avait aussi le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange de Dieu Yahvé avec des faux dieux. Pensez-vous que ces formes d'idolâtrie ne concernent que Juda et pas du tout la France d'aujourd'hui ? Détrompez-vous. Nous sommes bel et bien concernés aujourd'hui par ces formes d'idolâtrie. Même si ce n'est plus Baal, ni Moloch, ni ces dieux-là, aujourd'hui, nos idoles sont sous différentes formes. Ils sont dans notre argent, dans notre attachement à l'argent, dans notre travail, dans nos investissements dans le travail, pour certains, c'est dans notre statut social, le rang qu'on veut avoir vis-à-vis des autres, dans notre relation. Nos idoles sont des fois dans nos biens matériels et que sais-je. Ils sont encore aujourd'hui nos idoles dans les étoiles et les astres. En mars 2021, Radio France publiait que 41% des Français croient à l'astrologie et à la spiritualité. Et dans d'autres pays, c'est encore beaucoup plus, comme aux États-Unis. Et tenez-vous bien, en France, chez les 18-24 ans, le sondage disait qu'en France, il serait près de 70% de jeunes à croire aux choses occultes. Et dans ce même temps, à peine 44% de personnes interrogées aujourd'hui en France disent croire en Dieu, contre 49% en 2021. Et si on revenait aujourd'hui dans nos églises, des croyants sont peut-être comme à l'époque de Sophonie. Beaucoup aujourd'hui pensent encore qu'il est possible, c'est qu'ils peuvent à la fois être profondément engagés pour le Seigneur et en même temps rester profondément attachés à des idoles comme celles citées à l'instant. C'est ce dont Sophonie parle dans son verset 5 en disant « Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel tout en jurant par leur roi, leurs idoles. » Dans le contexte de la prophétie de Sophonie, je dirais qu'il s'agit d'un péché par omission. C'est-à-dire que le peuple de Dieu n'a pas fait les bonnes choses qu'il savait qu'il devait faire, à savoir chercher le Seigneur, se laisser guider par lui et lui faire confiance. Connaissez-vous aujourd'hui encore des personnes qui pêchent par omission ? Moi, si. Je me connais. Je me reconnais. Dans la Bible, nous l'avons lu ce matin, Matthieu 22, verset 39, il est dit « d'aimer notre prochain comme nous-mêmes ». Cela signifie que nous devons aider les autres, même si nous ne les connaissons pas. Si ces versets de Sophonie nous décrivent, ou s'ils décrivent notre attitude profonde du cœur, c'est-à-dire nos péchés par omission ou nos péchés délibérés, cela nous indique tout simplement que nous devons prendre nos péchés au sérieux et demander au Seigneur pardon. Nous devons l'inviter à venir prendre la place qui lui est due en nous. Le jugement de l'Éternel est inévitable, il est nécessaire, il est compréhensible. On peut se demander dans tout ce tableau de sombre de Sophonie, quel est l'espoir face au jugement écrasant de l'Éternel? Y a-t-il un espoir? La réponse est bien sûr oui. L'espoir est que la sentence du jugement de l'Éternel est évitable. C'est ce que nous voyons surtout dans le verset 6. Si la sentence n'était pas évitable, la prophétie de Sophonie n'aurait aucun intérêt. Dans les deux messages à venir, cette année ou l'année prochaine, Dieu voulant, j'aborderai avec vous, toujours dans le livre de Sophonie, l'espoir que Dieu offre au milieu des ténèbres. Oui, Dieu est juste, il est saint, il punit le péché, mais Dieu est aussi compatissant. Il est miséricordieux. Ça fait partie de son ADN. Et ce verset 6, même qui est sombre quand on le lit, ce verset 6, même sombre, on peut voir de l'espoir dedans. Et je crois qu'on peut voir de l'espoir dedans en se disant, si la condamnation se trouve dans si la condamnation se trouve dans le fait de se détourner de l'Éternel, de ne pas chercher l'Éternel, de ne pas consulter l'Éternel, alors la grâce qui sauve est dans l'opposé de tout ça. Et l'opposé de tout ça a été pleinement accompli par Christ. Alors revenons donc à Christ. Cherchons-le. Et plaçons notre confiance en lui. Seul le Seigneur Jésus-Christ nous offre un abri sûr. Sûr contre la colère du jugement de Dieu. C'est ce que nous voyons finalement se produire au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus était le seul à chercher à suivre parfaitement l'Éternel. Et pourtant, il est mort sous le jugement de Dieu, en prenant sur lui la colère de Dieu pour nos péchés. Et cela dans le but de nous purifier, afin qu'au jour du jugement final, aucun de ceux qui croient avec foi en sa mort et à sa résurrection, aucun de ceux-là ne subisse la colère de Dieu. Par son sang, le Seigneur pardonne nos idolâtries. Il pardonne nos syncrétismes. Il pardonne nos reniements. Il pardonne nos abandons. Bref, par son sang, le Seigneur pardonne nos péchés. Ésaïe 55, verset 6 nous dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses péchés. Qu'il retourne à l'Éternel qui a pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Si l'œuvre de Christ à la croix t'interpelle, je t'exhorte à courir vers Christ aujourd'hui. Si le Seigneur, si le Saint-Esprit te montre un péché, je t'invite à lui demander de t'aider à voir encore plus Jésus-Christ. En tout cas, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour cheminer avec Christ, Laurent, notre pasteur, ou bien d'autres dans la communauté sont là pour vous accompagner et répondre à vos questions. Que dire pour conclure sur ces 6 premiers versets de Sophonie que nous venons de lire? Ces versets nous exhortent à trouver en Christ un refuge, l'abri sûr contre la tempête inévitable de la colère de Dieu. Il nous appelle à avoir une confiance calme et tranquille dans la justice de Dieu. Dieu nettoiera sa maison, ce monde, mais il prend soin et il prendra soin de ceux qui sont à lui. Ce verset nous appelle aussi à avoir un désir ardent de l'annonce de l'évangile aux autres. Pourquoi? Parce que nous avons un abri sûr en Christ et nous sommes appelés à l'annoncer, cet abri sûr aux autres. Et enfin, ces versets nous encouragent à rester attaché à Christ et à son évangile. Car comme le peuple de Juda, nous sommes indignes d'être accueillis dans sa maison. Mais Christ a tout accompli pour nous donner accès. Laissons donc Christ nous conduire. Je vous invite encore à prier. Oui, Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous offres en Jésus-Christ. Oui, nous venons à toi aujourd'hui avec un cœur triste, car nous reconnaissons avoir péché contre toi, ou de façon délibérée ou par omission, comme ton peuple Juda. Je suis profondément attristé de t'avoir offensé. Nous sommes profondément attristés de t'avoir offensé. Oui, Dieu notre Père, dans ton amour, dans ta miséricorde, accorde-nous ton pardon. Oui, par ton Saint-Esprit, viens encore nous purifier. Aide-nous à vivre selon ta volonté, non la nôtre. Oui, Père, accorde à chacun de nous et chaque jour ta grâce pour demeurer avec toi et te servir. Merci, Père, parce que en Jésus-Christ, tu nous entends et tu réponds à nos prières. Gloire que te soit rendue. Amen.